Mais bonjour à tous, merci d'être venus. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter donc un travail en cours et c'est surtout un grand confort. Je remercie infiniment Serge de m'avoir pavé la voie de cette façon, puisque d'une certaine façon, je vais présenter une étude de cas sur le même genre de problématique. En partant directement depuis la matière empirique pour remonter vers le même genre de questions. Alors avant tout, je voulais préciser que donc, je travaille à INRIA depuis quelques années avec des informaticiens, toujours le problème de la technique, voilà, dans le cadre d'un observatoire de l'Internet qui s'appelle Metroscope, où on essaye de développer des recherches multidisciplinaires qui redeviennent un petit peu à la mode en ce moment. Mais je dois vous avouer que c'est un exercice je viens d'une formation plutôt anthropologique, qualitative, et là, de me mettre à travailler avec du data, je crois qu'il n'y a pas plus exotique. Et ce que j'essaye de faire dans ce cadre-là, c'est d'essayer de comprendre l'Internet et les technologies de communication un peu comme des infrastructures sociales. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, justement en regardant un peu comment est-ce qu'on produit ces données, par où elles circulent, à qui elles profitent, c'est de soulever un petit peu le capot et voir comment, à partir de le capot de toutes ces machines qu'on utilise et dont on ne voit pas le dessous, puisqu'ils sont cachés derrière des écrans, et bien finalement, soulever le capot, comprendre les mécanismes et voir comment les mécanismes sont portés par des acteurs. Et on va retomber sur les problématiques qu'on a vues jusqu'ici. Alors, certainement, beaucoup d'entre vous sont assez jeunes et ne se rendent peut-être pas compte de l'évolution des pratiques et de l'évolution d'Internet. Mais le web a énormément changé depuis les années 2000. Et le modèle de l'achat, par exemple, ou de l'abonnement, au service délivrant des contenus, que ce soit des livres, des musiques, des vidéos, de la presse, etc., ou encore le modèle de la redevance, ont clairement été relégués au bénéfice d'un modèle publicitaire ou de ce que j'appelle une gratuité publicitaire, c'est-à-dire que c'est une gratuité qui implique un échange dont on n'a pas toujours conscience. Et l'idée de cet exposé, c'est justement de faire affleurer la conscience de cet échange qui se fait assez souvent dans nos dos, malgré les conditions d'utilisation qui explicitent ça, plus ou moins, mais que de toute façon, on ne lit pas. Voici une autre façon d'appréhender ces relations. Alors, pour commencer, je voudrais commencer par une petite anecdote. Je vous ai mis cette impression d'écran, même si ce n'est pas vraiment de cet écran spécifique dont je parlais, mais j'ai attrapé ça tout à l'heure. Et pour vous raconter qu'il y a quelques mois, je voulais regarder le journal télévisé sur le web. Je n'ai pas la télé chez moi. Et je lance donc le JT en replay, exactement comme ici. Et je me suis retrouvé à regarder successivement 8 fois les variantes d'une même pub pour une même marque d'aliments végétariens. Et au bout de 8 fois, j'ai désisté d'accéder au contenu, alors que j'étais venu pour aller voir le JT. J'ai dû désister. Ça m'affichait, au bout de 8 fois, je ne sais pas si on voit ici, il y avait dans un coin, si vous avez votre contenu dans 67 secondes. Au bout de 8 fois, il m'affichait encore 300 secondes. Et je me disais, là, je ne vais pas m'en sortir. Bon. Alors, certainement, il s'agit d'un dysfonctionnement technique. Mais il y en a d'autres dans plein d'expériences de ce type-là. Mais surtout, j'ai eu dans cette expérience-là une espèce de prise de conscience dans l'énervement de plusieurs choses. Alors, j'en avais déjà conscience, et j'espère que vous en avez déjà conscience, mais là, c'était vraiment manifeste. J'ai ressenti que cette gratuité me coûtait très cher en temps perdu, me coûtait très cher en énervement, en manipulation, en envie de balancer l'ordinateur par la fenêtre ou autre. Et finalement, le point de départ de ce questionnement, c'est quel peut être le coût de la gratuité, en quelque sorte. Et évidemment, la question de la du coût de la gratuité publicitaire se pose d'autant plus, de façon d'autant plus aiguë si on regarde l'Internet mobile, notamment sur les téléphones, où la publicité gagne énormément de place et consomme une part importante de vos forfaits qui sont limités. Donc finalement, vous payez pour de la donnée qui va être consommée en publicité, une bonne partie, donc on est en train d'essayer de voir si on peut calculer les parts des forfaits qui partent en publicité, et idem, vous payez pour les données personnelles qui quittent votre smartphone et, à travers votre forfait, vont rejoindre les bases de données pour la publicité ciblée notamment. Alors, donc vous parlez spécifiquement donc des contenus gratuits sur Internet, mais à travers un exemple particulier qui est, je pense en plus, particulièrement intéressant pour les étudiants en infocom, que sont les sites d'information, les sites de presse, qui pratiquent la publicité et donnent accès à des contenus gratuitement en échange de ça. Et on va partir donc de la mise en évidence de l'expansion et de dérive de la publicité en ligne pour ensuite aller essayer d'identifier, justement, en regardant un petit peu par où circulent les informations et par où circule l'argent, identifier un petit peu les acteurs et leurs relations, les acteurs du champ de la presse et de la publicité par rapport aux utilisateurs. Et ensuite, j'entrerai plus dans le détail d'une petite expérience qu'on a faite avec mes collègues informaticiens. Une analyse finalement de données, on rentre un peu dans la logique du big data, mais cette fois-ci pour la science, et où on examine un peu comment les pratiques publicitaires, la performance des sites permettent aussi d'aborder et de comprendre un peu mieux la structure du champ journalistique en France. Et enfin, on va comprendre, puisque au centre de tout cet exposé se trouve justement l'utilisateur et des agents innovateurs, disons, que sont les adblockers ou les bloqueurs de publicité, qui justement apparaissent pour tous les utilisateurs qui sont un peu débordés par cette déferlante de publicité comme une ressource pour retrouver un peu de confort. Mais en même temps, donc ils jouent un rôle dans cet écosystème qui est très intéressant à analyser, mais l'évolution de ces acteurs-là n'est pas forcément très rassurante. Alors avant de commencer, je voulais savoir si parmi vous, il y avait des utilisateurs d'adblockers ou de bloqueurs de publicité sur leur fixe. Très bien. Donc vous voyez, on a probablement la moitié, un peu plus de la moitié des utilisateurs. Sur mobile également ? Non ? C'est moins évident sur mobile et c'est l'un des problèmes. Donc du coup, ça sera d'autant plus intéressant d'aller regarder ensemble de quoi il s'agit. Donc d'abord, l'expansion un peu des revenus publicitaires qui est un petit peu cette capitalisation, cette création de valeur sur la circulation des informations personnelles et de la publicité. Alors, quelques données de cadrage qui sont produites par les agences de publicité internationales. En haut à gauche, vous avez donc la croissance, l'expansion des revenus publicitaires de l'Internet domestique. Donc c'est concrètement tous les revenus publicitaires qui sont générés à partir de votre navigation web et des applications. Et donc on voit une croissance énorme et surtout... Donc là, ce sont des chiffres en milliards de dollars, hein, ça recouvre le monde. Et surtout, dans le graphe de gauche, j'arrive plus à voir les dates ici, à partir de 2010-2011, les smartphones apparaissent en 2007 hein, de façon industrielle et massive. À partir de 2010, la publicité sur smartphone commence à grandir et c'est concrètement elle qui est responsable de la plus forte part de croissance de ce marché-là. Du côté, c'est un effet aussi sur l'écologie générale des médias, puisque dans l'autre graphique, vous voyez que la répartition des revenus publicitaires entre les différents médias, eh bien, est très très favorable à Internet, qui est la ligne que vous voyez au-dessus, par rapport à la croissance très modérée de la télévision ou du câble. Alors, associé à cette expansion donc, de la valeur publicitaire sur Internet, se pose la question qu'on a abordée tout à l'heure, c'est-à-dire la valeur des chiffres qui devient vraiment centrale au point que quand on compare la question du capitalisme cognitif et qu'on l'associe au quantified self qu'on a abordé tout à l'heure, certains parlent de quantophrénie, c'est-à-dire de maladie de la quantification. Et c'est très important pour les acteurs économiques de quantifier les usages du web, de chercher à identifier et qualifier dans des grandes bases de données tous les usages qui sont faits du web. Et en fait, cette objectivation quantitative des comportements des individus, de leurs opinions, etc., eh bien, fait l'objet de luttes, finalement, entre différents acteurs qui ont différents outils pour objectiver cela dans des finalités variables. Donc ici, j'en ai listé quelques-unes. Évidemment, la plus évidente dans le secteur dont on parle, c'est l'audience, qui sert aux médias comme aux annonceurs et qui est opérée par des organismes spécialisés comme Médiamétrie, qui fait donc la mesure de l'audience des principaux sites de presse, ou alors Google Analytics, qui est plutôt centré sur les utilisateurs. Ensuite, on a des études de marché qui visent, elles, plutôt le marketing. On a également des informaticiens qui, eux, cherchent à quantifier la qualité de service, la qualité d'expérience pour plutôt les opérateurs télécoms, les développeurs logiciels, etc. On a d'autres formes de quantification qui sont celles liées au profilage et qui, concrètement, utilisent et croisent les différentes bases de données sur les usages individuels pour permettre la publicité ciblée et qui est également manipulée par des organismes spécifiques que sont les data management platforms qui fournissent des profils anonymes et permettent de cibler la population. Bref, il y a également les enquêtes d'opinion qui servent à d'autres, et notamment aux associations d'usagers, aux statistiques officielles, etc. Donc en fait, il y a tout un enjeu de représenter quantitativement l'usager et pour justifier des usages différents. Et surtout, l'idée qu'il y a derrière et qu'on a évoqué également tout à l'heure, c'est de se rendre compte à travers ces dispositifs, puisque ce sont des techniques mobilisées par des acteurs, que le marché n'est pas quelque chose de naturel, mais que le marché est bien instrumenté et que cette quantification sert dans de nombreux cas à objectiver la demande. Il sert à transmettre l'information et donc à produire cette transparence, etc. Et ça, les différentes techniques de l'information de communication, depuis le télégraphe, servent avant les premiers usages civils des technologies de l'information de communication, c'est souvent d'instrumenter le marché. Et donc le télégraphe, dès qu'il a eu un réseau suffisamment étendu, eh bien, servait à transmettre les informations sur les cours de bourse. Et aujourd'hui, le trading haute fréquence, donc il y a 60% des échanges qui sont faits sur les bourses qui sont faits par des machines équipées d'algorithmes qui opèrent des transactions, qui opèrent des centaines et des centaines, voire des milliers de transactions par seconde, sans qu'il y ait quelqu'un pour contrôler ou juger de ces transactions. Donc, la représentation, l'objectivation de la demande, des usages, de la perception par les usagers sont devenus un enjeu majeur pour de nombreux acteurs et un objet de lutte entre eux. En même temps, c'est un objet de lutte pour se partager en quelque sorte une manne publicitaire qui est énorme. Mais il y a un hic, c'est que les utilisateurs que tout le monde s'empresse de représenter quantitativement, eh bien, toutes ces objectivations-là ne mettent pas en valeur la fatigue, l'exaspération de l'utilisateur devant cette publicité qui semble dérégulée et qui aboutit à des abus en quelque sorte. Alors je tiens à préciser que, alors que évidemment par formation, par déformation professionnelle, initialement j'avais pas forcément un regard très sympathique envers la publicité, eh bien par des études antérieures, notamment sur la radio dans les années 30 à 50, je me suis rendu compte que la publicité pouvait servir de mécène en quelque sorte à de l'innovation culturelle et à des choses. Et finalement j'ai changé un peu de point de vue, et c'est avec d'autant plus de raisons que je peux aujourd'hui dire qu'il y a des dérives dans le déploiement actuel de la publicité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée des adblockers a permis de quantifier l'exaspération des utilisateurs face aux dérives, aux abus de la publicité. Première quantification. Alors la première quantification, ce sont évidemment les millions d'usagers. Il y a par exemple Adblock Plus, qui est l'un des plus populaires dans nos pays, a dépassé les 100 millions d'utilisateurs. Mais que si on cumule tous les différents adblockers existants, ça fait énormément de monde. Et ça a un impact direct sur les acteurs économiques qui chiffrent pour l'année 2015 à 21,4 milliards de dollars le manque à gagner dans la sphère publicitaire à cause de l'action des adblockers, à cause de toutes les publicités que vous n'avez pas vues et qui ne vous ont pas poussé à faire des achats. Voilà. Alors évidemment, ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, dans la mesure où ce sont des acteurs du champ publicitaire qui mettent ça en avant et qui ont tout intérêt à se plaindre et à survaloriser ce chiffre-là, et qui d'ailleurs estimaient, donc dans cette étude de 2015, pour l'année 2016, à 41 milliards, donc carrément, quasiment le double en une année. Dans les faits, aux États-Unis, on a à peu près 40% des internautes qui pensent utiliser des bloqueurs de publicité, mais seulement 26% en utilisent véritablement. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement ce qu'on entend par bloqueur de publicité. Est-ce que c'est désactiver les cookies dans les préférences du navigateur, ou si ce sont d'autres choses? Dans le cas de la France, on a donc une enquête qui a été faite par le CSA, donc qui contrôle l'audiovisuel, le régulateur de l'audiovisuel, qui a mesuré que 83% des internautes déclaraient être contrariés par la publicité en ligne, et que 24% d'entre eux utilisent un bloqueur, 30% selon d'autres études. Et à cela doit s'ajouter les 15% qui souhaitent s'équiper ou ont l'intention de le faire. À côté de ça, évidemment, il faut toujours garder en tête qu'il n'y a que 4% des utilisateurs qui sont prêts à débourser de l'argent pour avoir accès au contenu sans publicité. Donc, le principe de la publicité n'est pas remis en cause, c'est juste sa forme et sa quantité. Alors, un des éléments qui a été déclencheur de cette enquête, c'est l'action qui a été menée par le GEST, qui est le groupement des éditeurs de presse en ligne, un groupement professionnel français, qui a organisé en mars 2016, vous l'avez peut-être vécu ou entendu parler, une action collective visant à sensibiliser les internautes aux problèmes économiques que posaient les adblockers, les bloqueurs de publicité. Et donc, ils ont coordonné une action, et sur tous les sites web de presse, donc de ses membres, quand vous naviguiez pendant la semaine de cette action-là, eh bien, vous arriviez et on vous demandait d'office, débloquer, éteignez votre adblocker sur ce site-là, sinon vous n'aurez pas accès au contenu. Et donc, c'était un espèce de coup de force et de révolte là-dessus, et selon une étude ultérieure, cela aurait diminué de 11 à 20%, selon les sites, les activités de blocage publicitaire sur ces sites-là. Donc là, on a un conflit d'intérêts qui se manifeste avec des acteurs de nature assez différente, et on va essayer de les identifier, en partant tout simplement des relations de la circulation de l'information entre les différents acteurs du marché. Alors, marché biface, c'est une notion assez centrale à comprendre pour tout ce qui est de l'édition en ligne et surtout de la gratuité publicitaire. C'est que les clients de ce marché biface, ce sont... Donc, le marché biface, c'est le marché de la presse, qui vise d'une part une audience et d'autre part des annonceurs. Et donc c'est toujours un compromis entre ces deux éléments-là qu'il faut prendre en compte, avec y compris des contradictions et des tensions très fortes entre les logiques mercantiles de l'audience et les logiques spécifiques et déontologiques des journalistes. Donc là, on a le schéma de base de la circulation de l'information telle qu'on pourra la penser entre les sites web et l'utilisateur final, avec entre les deux les fournisseurs d'accès Internet, qui sont les opérateurs de câbles notamment, et des artefacts que sont les navigateurs web, votre Safari, Opera ou Firefox, etc., qui vous permettent d'accéder au contenu. Ce qui est évidemment trop simple, puisque vous le voyez bien, il y a de la publicité sur vos pages, et c'est intéressant de comprendre comment elle parvient sur vos pages, et comment est-ce qu'il est possible que... alors que vous naviguez, eh bien, on vous propose de manger vegan avec autant d'insistance. Bon, clairement, c'est que j'ai le profil sociologique par ma navigation, j'ai le profil du vegan. Et donc, on va vous glisser ça directement, et c'est ce qu'on appelle les contenus tiers. C'est-à-dire que ce n'est pas le site web qui décide d'afficher ça. En fait, le site web... c'est la flèche du bas qui passe par la publicité ciblée, le site web ne fait que disponibiliser un espace dans sa page qui est géré directement par les régies publicitaires qui sont à droite, comme Google, Shitty, Facebook, etc., Outbrain, etc., qui vont, eux, opérer les bases de données identifiant votre profil et glisser les publicités les plus opportunes pour votre profil directement dans le site web. Donc ça dépasse les éditeurs de presse. Mais vous voyez qu'il y a également une flèche par le dessus qui se développe énormément, c'est celle qu'on appelle la publicité native. Et c'est une publicité qui, elle, est gérée directement par les organes de presse. Et l'avantage de ça, et pourquoi est-ce que ça se développe, et les publicitaires, si vous avez l'occasion de travailler dans la publicité à l'avenir, dans un temps pas trop lointain, eh bien, on vous dira, les utilisateurs veulent de la publicité native, parce que c'est ce qui est le plus acceptable. Ce n'est pas que c'est le plus acceptable, c'est qu'on ne peut pas le bloquer. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas acceptable. Puisque c'est intégré au corps du code HTML de la page, on ne peut pas identifier une source extérieure et donc bloquer ça. Et c'est donc quelque chose qui se développe également. Alors évidemment, si on continue avec le circuit des flux d'informations, eh bien il y a un retour qui part de votre usage, de votre ordinateur, et qui repart vers, à travers des logiciels espions, les trackers, les mouchards, etc., cookies, et qui repartent vers les régies publicitaires, qui vont opérer et stocker ces données, les croiser entre les différents services des différents sites que vous visitez. Alors donc ça c'est la première couche, ce sont les flux d'informations. On rajoute une deuxième couche que sont les flux financiers. Évidemment, la manne publicitaire vient des annonceurs qui investissent dans les campagnes, qui vont vers les régies publicitaires, qui en reversent une partie au site web. Et évidemment, un des flux financiers importants est également celui de l'utilisateur final qui va payer pour avoir un accès à Internet. Donc ce n'est pas totalement gratuit finalement cette information. On paye pour avoir un accès et puis on achète du matériel en masse. Hein, ça, il ne faut jamais oublier. Et que ça coûte très cher. Un troisième flux financier que j'ai mis ici en pointillé parce qu'il n'est pas pratiqué par tous les adblockers, c'est ce qu'ils appellent les whitelists. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Oui. Eh bien, ce sont il y a plusieurs modèles de blocage de la publicité. Selon les bloqueurs de publicité, je vous les en présenterai plusieurs tout à l'heure, soit c'est la whitelist, soit c'est la blacklist. La whitelist, c'est le bloqueur de publicité décide quels sont les sites qui passent. Et donc, ils listent les publicités qui peuvent passer. Et la blacklist, ce sont ceux qui identifient les sites, les régies publicitaires à bloquer. Dans la whitelist, ceux qui recensent donc les publicités qui peuvent passer, le principe de base, c'est de dire c'est une publicité acceptable. Elle n'est pas intrusive, elle a un certain nombre de propriétés qui fait qu'elle est raisonnable, acceptable, et ça ne dérangera pas la navigation. Le problème, c'est que entrer dans ces whitelists, c'est certes s'adapter à des pratiques acceptables, mais c'est surtout payer directement l'adblocker pour rentrer dans sa whitelist. J'anticipe un peu sur la conclusion de l'exposé. Bon, vous voyez bien qu'il y a des flux d'argent et de données entre différents acteurs. Où est-ce que ça cogne ? Partout où ça ne circule pas, notamment l'argent. Donc, là où il y a des conflits entre acteurs, c'est notamment, par exemple, il y a quelques années, Freebox avait bloqué Google Ads sur sa Freebox parce qu'il considérait que la publicité occupait une part tellement importante de la bande passante qu'il serait logique que les publicitaires contribuent à l'effort de développement de l'infrastructure. Hein. Aller planter de la fibre optique dans tous les territoires français, ce n'est pas gratuit. Et ça repose principalement sur l'État et les fournisseurs d'accès Internet. Il n'y a pas de raison que d'autres n'y contribuent pas. En tout cas, c'est ce qu'ils ont essayé de faire sans grand succès. Une autre tension vient évidemment des régulateurs qui essayent de freiner un peu l'emballement des publicitaires et qui, notamment au niveau de l'Union européenne, a essayé de réglementer l'usage des mouchards et pour protéger un peu la vie personnelle. Mais on est dans un domaine qui est éminemment autorégulé, donc le rôle de l'État et de la législation est plutôt marginal et c'est quelque chose qui pose question, à mon sens. Enfin, quand on va dans la partie gauche des conflits, alors on a ce conflit du geste contre les adblockers qui a eu lieu l'année dernière, et puis également un autre conflit qui a émergé récemment, c'est que il y a un navigateur web qui s'appelle Brave, qui est encore en cours de développement, mais qui a déjà été interpellé par les éditeurs de contenu, parce que concrètement, ce navigateur web proposait d'intégrer un adblocker d'office et de devenir lui-même l'opérateur publicitaire qui trie les publicités pertinentes ou pas, et surtout qui proposait de rémunérer financièrement les utilisateurs qui choisiraient de voir telle ou telle publicité. On change radicalement de paradigme et ça posait problème parce que les sites web, du coup, n'étaient plus maîtres de l'espace, de leur espace de publication, puisque les publicités, ce n'était plus eux qui allaient au moins offrir l'espace pour ça. Donc on se rend compte un petit peu qu'on est dans un écosystème évidemment complexe où on a des acteurs collectifs qui ont des intérêts divergents et qui s'empoignent dans des luttes essentiellement à base de chiffres qui légitiment les décisions. Alors, je ne sais pas si on a énormément de temps, je vais aller accélérer un petit peu. Je vais peut-être prendre l'option 50 minutes finalement. Je vais faire une petite démo, vous connaissez évidemment. Alors, est-ce qu'on a Internet ici? That is the question. Donc, ce qu'on a ici, c'est que donc j'ai activé Ghostery, qui est ici, qui est sur cette page de 01net et qui recense tous les cookies, tous les mouchards qui sont présents. Et d'ailleurs, il les classe et il en bloque un certain nombre d'offices. Donc, on a différents types. Alors, on a quand même 25 mouchards sur un site web. Je vous signale qu'au moment où j'ai commencé cette expérience, j'avais commencé par Le Monde, j'avais 90 mouchards. Vous imaginez, il y a 90 logiciels espions qui envoient de l'information à des opérateurs différents. Ces opérateurs sont des opérateurs publicitaires. Ce sont des analyses de sites qui vont soit vers Google Analytics ou vers le site lui-même, ou qui ont des fonctions d'optimisation de votre navigation, donc il ne faut pas forcément tous les débloquer. On a des médias sociaux et d'autres éléments également qui sont là et qui ne visent pas forcément directement des acteurs de la publicité, mais qui peuvent très bien être récupérés par eux. Si on active, par exemple, un autre adblocker qui s'appelle Umatrix, qui ici était débloqué, on l'active et lui, d'office, il va bloquer tout ce qui vient de l'extérieur et recense. Donc, vous voyez ici tous les noms de domaines, donc en fait, qui sont les contenus tiers, c'est tout ce qui n'est pas dans la page de l'éditeur, tout ce qui est géré par des tiers dans cette page-là. Eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui intervient sur une page de presse, avec évidemment des acteurs dominants et hégémoniques. Google est là 9 fois sur 10, ainsi que d'autres. Voilà. Et donc, l'adblocker, il permet de bloquer certains sur les sites de notre choix. Voilà. Donc, je ne vais pas prolonger plus loin. Il y a différents modèles que j'ai déjà évoqués. Mais ce qui est intéressant quand on les utilise, c'est qu'on prend conscience du fait qu'on est observé et qu'on est observé par des organismes qu'on peut identifier, qu'on peut bloquer. On peut avoir une perception un petit peu différente de la navigation et chercher des alternatives intéressantes. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans les données de l'enquête qu'on a faite l'été dernier avec un petit outil de mesure qui s'appelle Fathom, qui est, pour parler simple, un petit robot qui va simuler un utilisateur sur un ordinateur et qui va avoir le comportement d'un utilisateur. Et à partir de cette navigation fictive, eh bien, on va effectuer un certain nombre de mesures de performance du site, en particulièrement le temps de la page de chargement de la page principale, le temps de chargement des ressources tierces, donc toutes les ressources qui sont liées à des URL qui ne sont pas celui de l'éditeur de presse, l'URL de ces ressources qui a été très intéressant, j'en parlerai pas ici, mais on a fait un petit travail statistique sur justement chercher à identifier un peu les positions hégémoniques là-dedans et recenser les opérateurs qui sont présents sur le gros de ces sites-là. Ils listent les cookies, etc. On essaye aussi de mesurer l'utilisation de mémoire. Et puis, comme c'était une enquête exploratoire, on va essayer de consolider une mesure qui n'a pas marché dans la première, qui est de mesurer exactement le volume de données que représente la publicité dans la navigation. Ce qui sera utile pour quantifier le coût que ça représente pour votre forfait sur portable. Alors, la campagne de mesure a duré 15 jours. On a un petit panel qu'on va consolider sur la deuxième enquête, mais là, il y a 42 sites, donc 36 de presse généraliste et 6 sites de presse, avec donc le petit robot, on l'a paramétré pour qu'il fasse 7 profils de navigation, comme si c'était 7 utilisateurs, un qui n'utilise pas d'adblocker, et puis les 6 autres qui utilisent des adblockers différents qui sont paramétrés. On fait une mesure quotidienne avec chacun de ces profils sur chacun des 42 sites en faisant le défilé, puisque ce sont des sites qui ne sont pas statiques, hein, dont l'information se déroule. On fait 5 défilements. Et puis, on a rajouté à ces mesures quantitatives des indicateurs qualitatifs. On a rajouté pour identifier un peu les modèles économiques, savoir si chacun de ces organes de presse avait une version papier ou pas, s'ils pratiquaient également l'abonnement ou pas, s'ils avaient des donations, des contenus de tiers, etc. Et voilà ce que le type de résultat. Ah oui, alors voilà, je montre un petit peu les différents groupes qu'on peut identifier dans ce corpus-là. On a des quotidiens nationaux, des quotidiens régionaux, des hebdomadaires nationaux, des quotidiens gratuits, des chaînes liées, des organes de presse textuels, mais qui sont liés à des organes audiovisuels, des pure players, c'est-à-dire des sites de presse qui ne font que de la presse sur Internet. La presse spécialisée technologie, en fait, parce que celle-là, on s'y est intéressé parce que justement, un certain nombre de ces sites-là cherchent à s'intéresser à la question de la publicité raisonnée. Et donc, on voulait voir, mesurer un petit peu comment est-ce qu'ils pratiquaient ça. Et puis, on a également des agrégateurs de contenu qui sont assez pratiqués, qui permettent d'accéder aux informations qui sont présentes dans des sites de presse, mais ils les agrègent. Et donc, on a Yahoo, Google, Orange Actu, qui sont assez pratiqués. Alors, un premier résultat brut, c'est par exemple le temps de chargement et le nombre de ressources chargées. Alors, est-ce que vous voyez mon curseur? Ouais. Alors, la ligne grise, c'est le profil sans adblocker. Donc, le nombre de ressources verticalement est beaucoup plus important, puisqu'il n'y a rien qui est bloqué. Et le temps de chargement est très long. Alors là, l'ingénieur qui a réalisé ce graphique a eu un souci technique. Il y a 2 échelles, donc on retrouve les lignes rouges, se retrouvent ici. Bon, concrètement, en termes de temps sur celui-ci, ça ne change pas grand-chose, sauf qu'on voit qu'il y a beaucoup moins de ressources qui sont chargées, et on voit déjà 2 groupes d'adblockers qui se distinguent. Et comme par hasard, ce sont les groupes qui pratiquent la whitelisting, donc qui laissent passer beaucoup plus d'éléments que ceux qui pratiquent le blacklisting. Mais ce n'est pas une règle générale. Par exemple, si on va sur les agrégateurs de contenu, eh bien, la performance est contraire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, si vous allez sur le site de Google, pourquoi est-ce que Google mettrait de la pub sur ces trucs ? Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les données de navigation. Donc, au contraire, il offre des services qui sont les plus gratuits, les plus dépouillés possibles de publicité, parce que vous utilisez leurs services et vous générez de la donnée. Et en l'occurrence, donc, les adblockers qui utilisent de la ressource pour identifier les sites extérieurs, etc., etc., et bien les adblockers, du coup, freinent la performance. quand on agrège un peu ces données, on peut utiliser un peu des box plots qui sont donc ces boîtes à moustaches. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. On a ici toutes les observations faites sur les sites là sont réparties entre les différents profils. Donc toutes les observations faites sans adblocker, on a du premier au troisième quartile, donc la moitié de la population se trouve dans cette boîte-là. On a le dernier, jusqu'au dernier dixième, ça va ici. Et au premier dixième, ça va ici. Donc concrètement, on a la dispersion des observations, de toutes les observations sur ce graphique, et ce qui permet de voir que, sans adblocker, d'une façon générale, on a des temps de chargement très importants qui peuvent aller jusqu'à 2 minutes et quelques. Là où on ne va pas plus loin de 50 secondes sur Adblock, etc. Et en même temps, on a des profils quand même, des comportements de ces temps de chargement qui sont différents selon les Adblockers. Donc j'accélère, on a des résultats un peu similaires sur les nombres de cookies actifs, avec et sans Adblocker. Et si on va vers de l'analyse géométrique de données où on croise des variables multiples pour les projeter sur un espace à 2 dimensions, eh bien, donc là, vous avez chacun des points est une séance d'observation avec ou sans adblocker. Donc là, ce sont toutes nos observations, on a à peu près 2000 observations. Et on les a regroupées à partir d'une méthode qui s'appelle la classification ascendance hiérarchique, les regrouper par leur similitude, donc dans 5 profils ici. Donc ces méthodes permettent donc de cumuler pas mal d'informations sur les sessions. Et puis ensuite, on peut visualiser, par exemple, comment dans ces observations, où se situent les différents profils de navigation qu'on a fait. Et on peut revenir après sur les acteurs. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, puisqu'on a fait appel à des statisticiens pour ça. C'est quelque chose d'assez abstrait. Mais on peut utiliser cette méthode pour restituer un peu la structure du champ de la presse dans son rapport à la publicité. Et on a ici, en fait, rajouté aux mesures les données qualitatives dont je vous parlais tout à l'heure, qui décrivent les modèles économiques. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que les catégories natives qu'on utilise dans le champ, c'est-à-dire la presse nationale quotidienne, la presse régionale, la presse spécialisée, etc., les pure payers, les agrégateurs, eh bien, ce sont des catégories qu'on retrouve dans les statistiques, à partir de critères, on arrive à recomposer en fait cet espace-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez les noms, mais on peut regrouper en fait ces différents espaces-là par la proximité des individus en des zones spécifiques. Et en l'occurrence, on retrouve toute la presse qui est liée, la presse historique liée au papier, presse quotidienne nationale, etc. Eh bien, elle a un type de modèle économique, un type de comportement dans les mesures dans les mesures de comportement face à la publicité de leur site. Ici, on a plus ceux qui sont liés aux organes de l'audiovisuel et également les nouvelles technologies. Ici, ce sont les agrégateurs de contenu qui ont une très grande performance, qui vont très rapidement. Et puis ici, on a des organes un peu plus indépendants qui ont des modèles soit sans aucune publicité, soit uniquement basés sur sur l'abonnement. Et donc, on en arrive à quelque chose d'intéressant pour revenir sur la question du rôle des adblockers dans la structuration de ce champ-là. C'est que la quantification qu'a représentée la popularisation des adblockers a mené les publicitaires à s'interroger, à produire de multiples rapports là-dessus, à essayer d'affronter, et puis finalement à accepter et à analyser l'information qui venait de cette représentation différente des utilisateurs. Et ils en tirent cette conclusion dans une étude de International Advertising Bureau, qui est une fédération internationale des professionnels de la publicité en ligne. Ah, c'est pas International, c'est Interactive Advertising Bureau. Ils disent, donc, c'est eux qui édictent les normes de la profession. C'est une profession qui est autorégulée, et donc ce n'est que sur les livres blancs, les décisions de bonnes pratiques, etc., qui vont encourager les publicitaires à orienter leurs choses, leurs pratiques. Et donc, ils disent, on devrait, ils ont un discours normatif, on devrait privilégier moins de formats publicitaires sur une seule page et moins de répétitions des mêmes publicités. Et ils s'interrogent progressivement sur ce qu'est une publicité acceptable pour l'utilisateur. C'est celle qui ne va pas geler l'écran, n'interfère pas avec la navigation. C'était le cas, mon cas de départ, là, la petite anecdote que je vous ai racontée. Que les fenêtres se ferment aisément, qu'on peut facilement faire réapparaître, ne force pas la vue avant l'accès au contenu, etc. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien, les adblockers s'érigent en régulateurs de l'économie publicitaire en publiant un manifeste des publicités acceptables qui fédère pas mal d'acteurs du champ et qui édicte un certain nombre de règles qui sont ensuite reprises en grande partie par justement les grands organismes d'autorégulation, c'est-à-dire les organismes professionnels des publicitaires, pour définir quelles sont les bonnes pratiques. Et donc on sent que finalement les bloqueurs de publicité jouent un rôle de régulateur, un peu une régulation par la force dans ce secteur où l'État ou la législation n'interfère pas directement. Alors jusque-là, tout va bien. Au moment où on a commencé à publier cette étude, on tombe par hasard sur ce press release, donc ce communiqué de presse d'Adblock Plus, qui, dans une toute petite feuille qui a circulé dans un coin de son site, officialisait son changement de statut en tant qu'entreprise et qui devient... alors, c'était une entreprise qui est basée sur du logiciel open source, sur la contribution de multiples contributeurs qui permettent d'identifier les sites. Donc, c'est l'économie participative où on identifie les sites qui sont les URL que l'on doit bloquer, etc. Et là, ça commence à poser problème parce que quel est le nouveau statut d'Adblock Plus ? Adblock Plus devient un opérateur publicitaire. Et donc, Adblock Plus est aujourd'hui, assume le fait qu'il est payé par les publicitaires pour faire le tri entre la bonne et la mauvaise pub. Et donc, ce qui mène justement des organes de presse un peu spécialisés à crier un peu au loup, c'est-à-dire que Adblock Plus devient un acteur de plus du marché publicitaire, et Yeo, qui est la boîte qui la dirige, devient désormais juge et partie. Et donc, finalement, sur cette modération par les adblockers, par whitelisting, ça nous pose un certain nombre de soucis. Alors, ce sur quoi je voulais conclure, je vais même finir en une seconde, surtout que j'ai plus mes notes depuis que j'ai changé d'écran, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, l'Internet, certes, s'est déployé comme un espace de liberté. Mais dans cet espace de liberté, on peut définir les règles, et il n'y a pas forcément un modèle unique, inéluctable de développement, et qu'il y a des alternatives multiples à inventer. Le blocage publicitaire en a été une. C'est venu d'une toute petite boîte avec la contribution des usagers, etc., et qui a réussi à faire face à des acteurs massifs du champ publicitaire, des acteurs comme Google ou comme les grosses boîtes de publicité. Et les alternatives multiples à inventer, je l'ai dit, depuis le simple respect pour la personne, parce que tout simplement, quand je parlais des enjeux de représentation de l'usager, c'est que dans ces statistiques-là, l'usager n'est considéré que comme un consommateur. D'accord ? Donc finalement, finalement peut-être dans une logique un peu américaine, l'acte de consommation est un acte citoyen, donc si on vous limite à être un consommateur, c'est déjà pas mal. Mais on peut considérer d'autres dimensions de la vie sociale que la simple transaction et l'intégrer dans les démarches économiques. Mais il y a aussi le simple respect pour le produit éditorial, c'est-à-dire que les conditions de travail des journalistes sont extrêmement contraintes par cette pression de la publicité et de l'audience. Et si vous allez aujourd'hui dans une salle de rédaction, vous allez voir que la question de l'audience est constamment présente à chaque instant du travail publicitaire, c'est-à-dire que le papier, il t'appelle en ligne, il faut surveiller combien de fois il est répercuté, combien de fois il est, etc. Et c'est une concurrence qui est une pression énorme sur le travail journalistique qui doit se faire normalement, certes dans la rapidité, mais au moins dans une certaine sérénité intellectuelle, et pas sous la pression de la performance à court terme, alors qu'un article peut avoir des répercussions très importantes 15 jours après. Voilà. Et puis, il y a des alternatives encore à inventer, et comme ce Brave qui, toute petite boîte américaine, se lance dans un modèle totalement inédit qui, s'il arrive à faire face aux procès qui lui sont intentés déjà, eh bien, propose de rémunérer l'internaute pour l'effort qu'il produit à aller visualiser des publicités, etc. Voilà, j'en resterai là. Je vous remercie pour votre attention. S'interroge là-dessus. Absolument. Absolument. Il y en a plusieurs. Alors, il faut noter qu'en France, ils ne sont pas particulièrement puissants. Dans d'autres pays, par exemple, on a vu des partis pirates jouer des rôles qui s'appellent partis pirates, qui placent les questions de la citoyenneté numérique à l'avant, comme une véritable question politique. En France, ce n'est pas le cas. Mais il existe des organismes, comme par exemple la Quadrature du Net, qui développe. Donc, la Quadrature du Net, qui est une association qui organise des conférences, des consultations, éventuellement des sondages, etc., et qui réfléchissent effectivement aux formes de s'organiser pour lutter contre les formes hégémoniques, finalement, qui prennent la main sur le web. Ce n'est pas qu'on les rejette, mais il faut qu'il y ait un peu de... Puisque tout est autorégulé, il faut qu'il y ait des parties dans un rapport de force. Si les associations de consommateurs... C'est plus ou moins des associations de consommateurs. Si ces organisations-là ne viennent pas créer le rapport de force, eh bien, c'est la dérive, quoi, effectivement. Merci.
Y a-t-il des outils qui permettent de mesurer de manière fiable l'efficacité de la publicité? Moi, j'ai vérifié au moins un millier de fois la publicité qui m'est parvenue.
Vérifier comment, pardon ?
Mais j'ai regardé si ça avait un contenu informationnel quelconque.
D'accord.
Par exemple, je commande pas mal par Amazon. C'est assez typé. Hein. Mm-hmm. Et donc, ça m'intéresse de voir ce qu'ils me proposent. Mais c'est que des couillonnats. Mm-hmm. La même chose avec l'avion, avec les chambres d'hôtel. Il n'y a pas une information qui m'a été de la moindre importance.
Mm-hmm. Alors, absolument.
Mm-hmm. C'est que des couillonnats. Mm-hmm. Vous pouvez regarder systématiquement. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent, mais moi j'ai regardé par curiosité. Est-ce qu'ils sont capables, avec leurs informations, hein, ma transparence complète, mm-hmm. de me livrer des informations qui me surprennent? Pas une.
Mm-hmm. Absolument.
C'est des années que je regarde.
Absolument. Ben alors ça c'est un peu la logique de la bulle algorithmique, en fait. C'est-à-dire que on cherche plutôt à vous enfermer dans vos choix précédents, plutôt qu'à vous, c'est-à-dire, typiquement, j'avais cherché une imprimante il y a quelque temps, j'ai passé 3 mois à voir des offres d'imprimantes alors que j'avais déjà acheté mon imprimante. Donc c'est quelque chose qui est absolument insupportable.
Ils anticipent
l'obsolescence des objets. Ouais, certes, mais bon, enfin voilà. Après, ça dépend aussi des types de consommateurs. Hein. On n'est pas forcément des gens qui regardons la publicité avec une certaine, comme si c'était des éléments d'information, mais... Effectivement, la question est extrêmement pertinente. Et on voit dans ces organismes d'autorégulation de la publicité toute une réflexion justement sur comment rendre les choix algorithmiques significatifs pour l'utilisateur et comment ça pourrait éventuellement être beaucoup plus performant. Personnellement, je n'ai pas un regard particulier sur ces retours-là, mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire là-dessus parce que sur le fond, les statistiques d'opinion montrent que la publicité n'est pas intégralement rejetée puisque les gens sont attachés à cette gratuité et qu'on est tous capables de comprendre que les producteurs de contenu À partir du moment où ils sont professionnels, ils ont besoin d'être rémunérés. Et si on tient à la gratuité, dans la mesure où on n'accepte pas de payer non plus par la subvention, la publicité le fait. Mais il faut savoir dans quelle mesure ça peut être une expérience pas trop insupportable pour l'utilisateur.
Bon, j'ai encore une remarque qui rejoint à la fois ce que vous avez dit sur ADP ou APD.
AdBlock plus ou
moins ADP. Ce qu'avait dit Serge Proulx tout à l'heure. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois de plus en plus de sites qui étaient gratuits devenir payants. Un site de musique gratuit, donc là, 3 mois plus tard, c'est payant. Maintenant, c'est même passé sur AA Academia, Edu.
Oui, absolument.
Donc, on m'a fait, tous mes étudiants, doctorants m'ont dit, ouais, il faut absolument publier tous tes textes. Et au bout de 3 mois, bon, j'ai tout publié. 3 mois, aussitôt, ils m'ont demandé, je ne sais pas combien. Hein,
c'est 30 euros, je crois, par mois, en tout cas.
C'est un peu utilisé, en fait. Oui, je pense que j'ai tellement.
Il a dépassé le quota.
Mais bon, c'est peut-être lié à ce changement d'échelle dont vous parliez. Des petites boîtes
absolument, de
bricoleurs, ils se défoncent, ils s'amusent, et tout à coup, ils ont besoin d'un capital risque. Mmh. Et là, bon, à un moment donné, le brave créateur de Wikipédia, il va partir, il va cesser de réclamer des dons. Hein, vous rappelez, tout le monde a eu une quête de dons. Mmh. À partir d'un certain moment, on peut s'imaginer qu'ils vont commencer à nous faire payer un accès de 50 centimes par mois, etc.
Ouais. Ce sont des choix. Moi, ce qui me surprend en fait en rapport à ça, c'est dans les slides de tout à l'heure, où on mettait justement d'un côté l'économie du partage et de l'autre les choses plus commerciales, que les start-up étaient du côté plutôt de l'économie du partage. Alors que je pense que la philosophie de la start-up, c'est de partir de là, mais vise effectivement ce tournant que vous avez pointé. Mais j'ose espérer que ce n'est pas inéluctable. Mais par contre, il faut savoir que faire tourner un site comme academia.edu, ça ne se passe pas tout seul. Donc il faut trouver une façon de le faire, quoi. Maintenant, j'ai pas de solution, hein, mais...
sur la remarque sur ma diapo, là, effectivement, j'étais très conscient d'avoir mis les start-up du côté de l'économie du partage, mais c'était pour... En fait, c'est parce qu'implicitement, je voulais montrer l'espèce d'ambivalence.
Absolument.
Donc, ça faisait référence, effectivement, à la question du passage à l'échelle, tu sais, où tout s'effondre, tu sais,
Et puis surtout, un des modèles centraux de tout ça, c'est la gratuité limitée. C'est-à-dire que dans la plupart de ces sites-là, on accède au contenu, mais on ne peut pas tout avoir. Donc c'est la logique du teasing. La gratuité, c'est le produit d'appel, quoi. C'est, on entre dans la chose et puis finalement, on va accéder au vrai monde et puis on va lâcher un sou. Et effectivement, ça fait de la différence, quoi. Mais il y avait Hervé qui avait un commentaire.
C'est pas aberrant de payer.
Oui.
Déjà, ça doit être la première chose à dire, c'est pas aberrant de payer. Sur Facebook, si on ramène les bénéfices de Facebook divisés par le nombre d'utilisateurs, c'est 2,80€ par an pour ne pas être tracé. Donc, est-ce qu'on préfère être tracé ou payer 2,80€?
Et puis surtout, je voudrais rappeler que déjà, ça, c'est très important de payer parce que la répartition je pense par exemple à la musique, quand on achète la musique, la répercussion en termes de droits d'auteur est totalement autre que quand vous faites du streaming. Donc pensez aux gens qu'il y a derrière et pensez aussi que combien déboursez-vous d'argent pour Internet, pour y avoir accès, c'est-à-dire en termes de smartphone, en termes d'abonnement, etc. Pardon, mais c'est énorme.
Ça sera forcément plus de payer pour les contenus.
Ça sera forcément plus.
En plus,
oui, bien sûr.
Évident non plus, surtout pour des jeunes qui n'ont pas d'argent. Mais on part aujourd'hui du principe que ça doit être gratuit.
Moi, j'ai été étudiant aussi, j'ai acheté à l'époque mes bouquins et mes trucs.
Oui, mais je veux dire, l'ensemble de l'économie du web part du principe que sans la gratuité, les gens n'iraient pas sur les services. C'est vrai pour un certain nombre de services. mais il faut aujourd'hui qu'on pense que ça ne durera pas. Jamais la publicité ne pourra garantir l'ensemble du web tel qu'il est, donc elle ne va faire que favoriser la concentration sur un certain nombre d'acteurs. Après, sur l'exemple qui a été donné de Academia, ça s'est passé au moment où Academia a été racheté, donc processus start-up qu'on vend. Quand, une fois qu'on a capté une masse d'acteurs sur sa start-up, ça a été racheté par Elsevier.
Ah ouais, du piratage scientifique.
Par contre, je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan Wikipédia. C'est-à-dire que Wikipédia ne peut pas être acheté grâce à la licence Creative Commons by SA qu'il y a derrière. Imaginons qu'un jour, ils viennent à l'idée saugrenue à quelqu'un de vendre Wikipédia. Quelqu'un pourrait, dans la seconde qui suit, faire une copie intégrale et juridiquement protégé de tout ce qu'il y a dans Wikipédia et maintenir Wikipédia. Donc Wikipédia d'emblée n'a pas été construit comme une start-up mais comme un commun. Ça a été le choix d'origine qui s'est retranscrit dans la licence. Donc on voit bien qu'il y a deux hypothèses. Il n'est pas obligatoire que quelque chose devienne adblock, c'est-à-dire se revendre ensuite dans le système. Enfin, ma troisième remarque, c'est je vais faire le rôle de Philippe tout à l'heure, c'est ce que font les États. Hein. En l'occurrence, devant l'impatience des usagers, les États commencent à réagir, en particulier dans le prochain règlement qui est en discussion à l'Union européenne, il y a l'idée de bloquer tous les cookies tiers, c'est-à-dire d'accepter que le monde nous donne des cookies, mais pas les tiers. Mmh. Donc là, c'est un bouleversement absolument radical de cette économie, c'est-à-dire que l'économie du traçage de la donnée fait par des opérateurs externes comme Google DoubleClick ou Criteo va devenir en fait une économie qui va revenir dans la main des médias. Mmh. Et donc on va voir revenir non plus une publicité ciblée, mais une publicité généraliste, une publicité qui est liée au contenu qui nous est présenté, non pas à la personne qui est en train de lire ce contenu. Mmh. Et ça, c'est peut-être une forme sacrément utile de travail des États. Mmh.
Et donc, dans les deux cas, Creative Commons ou législation, on a quand même donc le cadre juridique qui n'est pas interdit, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que réguler, c'est bloqué. Mais pourquoi ? Pourquoi pas, quoi ? Je veux dire, tous les nouveaux médias dans l'histoire, quand ils arrivent, ils n'étaient pas régulés. Mais il a bien fallu réguler à un moment donné cet espace nouveau, quoi. Le cadrer. Bon, je pense qu'on est bien, c'était pas mal.
Vassiline, nous te remercions pour ta
contribution. Merci à vous.